Bonjour à tous, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. Mais je suis vraiment très content de te retrouver après une semaine de mail, une semaine où on a parlé un peu de différentes choses et on a parlé des opportunités notamment. D'ailleurs, si tu veux recevoir un email privé, donc c'est un email en ce moment par jour, hein, puisqu'on est en temps de crise, on essaie d'aborder les choses de manière pragmatique et d'aller à l'essentiel pour que chacun puisse un peu ouvrir les yeux sur la situation d'aujourd'hui et sur les opportunités qui se profilent. Donc si tu veux recevoir les emails privés, je te mets le lien en description, hein. Tu mets ton adresse email, tu recevras le prochain email qui arrive demain matin. Je sais même pas si ce sera matin, mais ce sera en tout cas demain sans problème. Alors un podcast donc, comme je disais, donc hebdomadaire. Hein, la semaine dernière, on a repris l'habitude de faire des podcasts. Un podcast hebdomadaire parce que je veux pas non plus en faire trop souvent, parce que je pense que c'est mieux de pouvoir aborder certains sujets en profondeur, d'essayer de prendre plus le temps. Tu sais que moi j'aime bien parler, j'aime bien divaguer souvent sur les sujets. Je pense qu'aujourd'hui on va encore passer un peu de temps ensemble. Alors je sais, ça peut pour certains être long. Alors si le sujet t'intéresse pas, tu peux avancer un peu plus, hein. Je vais te dire d'ailleurs ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors je voulais parler de l'assurance vie avec toi aujourd'hui. Je veux te parler de l'assurance vie parce que en ce moment, les États s'endettent à coût de milliards, enfin de millions, voire de milliards d'euros. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir comme impact sur l'assurance vie. Et globalement, on parlera de l'assurance vie, hein, des rendements qu'il y a aujourd'hui sur l'assurance vie. On va parler de tout ça. Et puis des risques, hein, qu'il peut y avoir par rapport à l'assurance vie, parce que c'est pas simplement que des avantages, c'est pas simplement que des choses positives, en tout cas selon moi. Donc on essaiera d'en parler ensemble juste après, ce sera le premier sujet. Ensuite, je verrai avec toi, je voudrais revenir avec toi sur le versement du dividende des entreprises. Parce que ça a été un peu la déferlante cette semaine du côté de l'État français, notamment, qui a soutenu un petit peu l'idée que les entreprises devaient faire très attention et devaient être un petit peu fines dans le versement du dividende, et notamment les entreprises où l'État est un investisseur particulier. Donc on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses, et il y a même des choses qui ont avancé depuis le dernier email où je parlais de ça, c'était mercredi, je crois. Donc on va en discuter. Et donc ça, ce sera notre deuxième sujet de ce podcast hebdomadaire. Et on terminera, alors si on s'éternise pas trop, parce que je voudrais pas que ça dure plus d'une heure, hein, on parlera en gros de l'idée de capitaliser l'argent d'aujourd'hui, parce que je pense qu'on se rend tous un petit peu compte que, au final, comme on est tous confinés à la maison, on est moins tenté de dépenser d'argent. En tout cas, on a moins de sollicitations, notamment pour aller sortir avec des amis, dépenser de l'argent un peu de cette manière-là. Alors, il y a d'autres tentations, hein, comme le e-commerce, hein, évidemment, mais globalement, j'ai pu constater, en tout cas, déjà dans ma pratique quotidienne, que c'était j'étais un peu moins tenté par tout ça. Bref, on en parlera tout à l'heure et je sais pas si on aura le temps, mais en tout cas on essaiera de l'aborder, parce que je veux rester à peu près dans un maximum d'une heure d'enregistrement. Donc peut-être ça sera moins, peut-être ça sera plus. Donc si c'est plus, on abordera ce sujet la prochaine fois. D'accord ? Alors voilà, donc du coup tu pourras je te mettrai d'ailleurs en description le moment où j'aborde chaque thématique, comme ça tu pourras switcher d'une thématique à l'autre. Si par exemple l'assurance vie t'intéresse pas, eh bien tu pourras passer au versement des dividendes, là où je parle de tout ça. D'accord ? Alors on va commencer par effectivement les assurances vie et le rendement Et alors pourquoi je voulais parler de ça? Parce que c'est vrai que là, bah, déjà l'assurance vie, enfin je pense que tout le monde le sait, c'est quand même l'un des placements préférés des Français avec avec le livret A. Je pense que ça a du sens de le dire aujourd'hui. Les montants qui sont investis sur les assurances vie sont considérables. On parle de plusieurs milliers de milliards d'euros, hein. Donc je crois que c'est de l'ordre de 1800 ou quasiment 2000 milliards, hein. On n'est pas loin des 2000 milliards d'euros. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Donc là, et on parle simplement des assurances vie françaises, hein. Donc évidemment, il y a d'autres pays, il y a d'autres assurances vie, mais globalement, le marché français, c'est un peu moins de 200, 2000 milliards, 2000 milliards d'euros. Donc c'est des sommes qui sont assez importantes. Alors comment fonctionne une assurance vie? Alors tu as plusieurs possibilités. Peut-être que toi tu n'as pas d'assurance vie, ça va peut-être te permettre de comprendre comment fonctionne une assurance vie. Alors une assurance vie, c'est très simple. Bon, ça fonctionne un peu sous le même cadre qu'une assurance, puisqu'effectivement il y a une sorte de garantie derrière en fait les dépôts, enfin ce que tu déposes effectivement, hein, puisque l'assureur, même si c'est une banque, hein, qui te vend l'assurance vie, derrière c'est au sens strict, une assurance, hein. Eh bien en fait, il y a plusieurs possibilités d'investir dans une assurance vie. Il y a ce qu'on appelle les unités de compte, d'accord? Les UC, les unités de compte, c'est en fait la manière directe d'investir sur les marchés financiers en actions, d'accord? Donc ça va être souvent ce que vont proposer les assureurs, des paniers d'actions, ça va être des fonds dans lesquels où il y a plus ou moins de risques, effectivement. Où voilà, tu vas placer ton argent. Alors tu sais pas forcément ce qu'il y a dans ce, enfin si tu peux le savoir, mais grosso modo, tu n'as pas conscience exactement de la répartition tout le temps, puisque c'est le gérant qui s'occupe de répartir l'argent après au sein du fonds. C'est lui qui va arbitrer, c'est lui qui va acheter des actions, c'est lui qui va les vendre. Donc toi, tu achètes en fait les parts d'un fonds, grosso modo, et ton argent est réparti de cette manière-là, d'accord? Et la deuxième manière, donc ça c'est la manière la plus minoritaire aujourd'hui, lorsque, en tout cas, ça peut être changé dans les prochaines années, mais c'est la manière la moins sollicitée aujourd'hui auprès des Français, hein, puisque c'est, je crois, même pas 20%, hein, c'est une quinzaine de pourcents aujourd'hui des assurances vie qui comportent une partie en unité de compte, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et on a la partie préférée des Français, celle qui a longtemps rapporté pas mal d'argent, même si avec l'inflation, on peut aussi se poser la question de la vraie rentabilité des assurances vie, surtout aujourd'hui. Eh bien, c'est les fonds en euros, donc ce qu'on appelle, oui, les fonds en euros, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'un fonds en euros? Qui d'ailleurs n'est pas forcément toujours en euros, mais grosso modo, un fonds en euros, c'est de la dette qui va être émise en fait par des pays de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire qu'en gros, toi tu vas acheter de la dette de ces pays-là. D'accord? Donc tu vas détenir de la dette de la France, de la dette de l'Allemagne, de la dette de l'Italie, de la dette de l'Espagne, de la dette de tous les pays européens. D'accord? Donc c'est une répartition qui est faite par l'assurance, hein, c'est elle qui gère encore une fois là-dessus. Tu n'as pas la main à proprement parler. Donc tu vas effectivement avoir de la dette qui est donc détenue par toi, et les États, eux, remboursent effectivement cette dette au fil de l'eau avec des intérêts. Et donc les intérêts servent effectivement à payer la rentabilité que l'assureur te promet. D'accord? Aujourd'hui, les rendements, grosso modo, hein, c'est un peu plus d'un pour cent, enfin. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que les rendements, c'est autour de 1,5 à 1,8%. On est sur vraiment, donc c'est des rendements moyens, hein, d'accord? On parle bien de rendements moyens. Donc sur des rendements qui sont quand même très 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 basses, hein. Enfin, je veux dire, si tu prends en compte en plus de ça, donc l'inflation, donc c'est-à-dire la hausse généralisée des prix à la consommation, eh bien la valeur de ton argent finalement il est presque négatif, d'accord? C'est-à-dire qu'au final, tu perds presque un petit peu d'argent. C'est pas toujours le cas, ça dépend des périodes, mais grosso modo, suivant comment se comporte l'inflation, eh bien si ton taux d'intérêt, ton rendement finalement, il n'est pas assez élevé, eh bien mécaniquement, la valeur de ton argent diminue. Ça ne veut pas dire que tu perds de l'argent au sens strict du terme, c'est-à-dire que tu avais 100 euros, tu as 90 euros. Non, ça c'est pas le cas. Tu as toujours ces 100 euros, mais ces 100 euros te permettent d'acheter moins de choses avec. D'accord ? Ce qui fait que, bah, littéralement, tu as perdu de l'argent au sens où on pourrait en parler comme ça entre amis. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, grosso modo, voilà comment ça fonctionne une assurance vie. D'accord ? Donc, c'est un placement qui est très apprécié par les Français parce que c'est un placement qui est sécurisé. C'est-à-dire que les dépôts sont sécurisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit, voilà, tu déposes ton argent sur une assurance vie, tu la places dans un fonds en euros, tu vas récolter de l'argent. D'accord ? Tu vas récolter... alors, on parle bien des assurances vie en fonds en euros. Les assurances vie qui sont en unité de compte, eh bien là, il ne peut pas y avoir de garantie sur la performance, puisque au final, suivant comment évolue effectivement le fonds, tu peux avoir des pertes ou des gains. On ne peut pas le savoir, d'accord ? Donc, c'est aussi pour ça que les Français préfèrent l'assurance vie en fonds en euros, parce que derrière l'assurance vie en fonds en euros, on a, en tout cas sur le papier, donc un rendement qui est donné, d'accord ? Et on sait plus ou moins quel rendement on va avoir tous les ans. Voilà. Même si ces dernières années, il n'a fait que diminuer, et ça va continuer, je te le dis, littéralement, et c'est un peu l'introduction de tout ce que je vais dire justement maintenant, c'est que il y a quand même des sacrées ombres au tableau lorsqu'on essaie de regarder l'avenir de l'assurance vie. Parce que on voit bien que les États sont en train de tous s'endetter pour sauver l'économie, d'accord ? Donc l'économie européenne va se retrouver en grande difficulté dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il faut aider les entreprises, il faut aider même les particuliers dans un certain nombre de cas. Tous les États vont pas avoir les mêmes, ils vont pas investir, enfin ils vont pas dépenser de l'argent de la même façon, mais ils vont lever de l'argent. Donc l'Allemagne a décidé de lever de l'argent, la France, l'Italie, enfin tous les pays ont décidé grosso modo qu'ils allaient investir de l'argent, qu'ils allaient donc aider, que ce soit les TPE, les PME pour la France et les particuliers de manière générale, puisque effectivement derrière les chômages partiels et tous ces systèmes qui ont été mis en place, bah, l'argent il faut le trouver quelque part. Il y a un moment l'État va devoir aller chercher cet argent quelque part, et c'est pas dans les revenus de l'État qu'il va aller le chercher, non, puisqu'on n'a pas on dépense plus d'argent qu'on en gagne, d'accord. L'État est endetté. L'État donc dépend, est obligé d'aller chercher tous les ans plus en plus d'argent pour subvenir à ses besoins, d'accord ? Pour payer tout ce qu'il a à payer. Donc, grosso modo, toutes ces nouvelles dépenses, il va falloir aller chercher de l'argent quelque part. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est très simple. L'État va émettre ce qu'on appelle des obligations. Alors, c'est grosso modo ce qui se trouve dans les assurances-vie en fonds en euros. Ce sont des obligations. Les obligations, c'est de la dette. C'est-à-dire qu'on vend de la dette. On vend de la dette, littéralement. Je suis en train de regarder un petit peu ce que j'ai noté, parce que je voulais suivre un petit peu le fil de... Voilà, on dit bien, l'État, enfin, Emmanuel Macron a bien dit, l'État paiera quoi qu'il en coûte. C'est quand même une phrase assez forte, hein, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire, peu importe, finalement, le montant que ça peut coûter... Cette crise, hein, c'est les impacts de cette crise et tout ce qui va se passer après, parce qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début. On est dans une crise sanitaire. Il va se passer quoi ? Il va se passer qu'on va rentrer dans une crise économique. Alors, petite, grande ou profonde, j'en ai strictement aucune idée et je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas là pour anticiper l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, comme on dit. Quand on te dit que aujourd'hui les entreprises vont tous, enfin, il y a quoi ? Je crois qu'en l'industrie, il n'y a même pas 20% de l'industrie aujourd'hui française qui continue de tourner. Quand on te dit que la majorité des entreprises, elles arrêtent. quand on te dit que le tourisme il est à l'arrêt total, quand on te dit que les restaurateurs sont out aussi, quand on te dit qu'en gros l'économie il est à l'arrêt ou en tout cas il est fortement ralenti, on n'a aucune idée du temps que ça va prendre. D'accord, ça peut être aujourd'hui, alors le gouvernement a annoncé un prolongement du confinement jusqu'au 15 avril, donc on est déjà reparti pour 2 semaines, ça fait déjà 2 semaines, donc ça va faire 1 mois au total, ça fait déjà 1 mois grosso modo, ça fera donc 1 mois que les entreprises grosso modo ne tournent quasiment plus, à part quelques évidemment secteurs économiques comme la distribution alimentaire, ce genre de choses, qui elle continue de tourner, mais et encore, vraisemblablement est un peu au ralenti aussi, parce qu'il y a eu une vague d'achat énorme au départ, et aujourd'hui, cette vague d'achat elle s'est un petit peu diminuée, même fortement diminuée, pour se retrouver à des niveaux qui sont très faibles, puisque les gens vont surtout acheter de l'alimentation, et donc il y a très 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 peu d'achats plaisir, il y a très peu d'autres achats, et donc c'est pas forcément une bonne chose non plus pour la distribution dans les grandes surfaces comme Carrefour, Leclerc, Auchan et toutes ces entreprises là qui finalement se retrouvent à vendre essentiellement de la nourriture. Et pas tous les autres choses qui peuvent alimenter notre vie quotidienne, voilà. Et donc, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il va y avoir un gros problème au niveau de ces entreprises-là, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, d'accord ? Des petites entreprises qui font faillite vont avoir des répercussions sur des grosses sur des moyennes entreprises, puisqu'elles sont interdépendantes, puisque c'est souvent les petites entreprises qui sont fournisseurs des moyennes entreprises, qui elles-mêmes sont fournisseurs des très grosses entreprises. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que l'économie, de toute manière, il est lié. Toutes les entreprises sont liées les unes aux autres. D'accord ? À part évidemment quelques. Voilà, il y a toujours des exceptions, évidemment, mais grosso modo, c'est le cas. Donc si il y en a certains qui tombent, ça peut entraîner d'autres, d'accord ? Et donc ce que dit l'État, c'est qu'il va payer quoi qu'il en coûte. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Donc, l'État va émettre ce qu'on appelle des obligations, donc de la dette, d'accord ? De la dette, par exemple, j'émets 10 milliards, peut-être une connerie, peut-être en train de dire des bêtises, mais j'émets les 500 millions d'euros sur 10 ans, donc je le rembourse sur 10 ans, à 0,5%. Je te donne un exemple, d'accord ? D'ailleurs, je pense qu'on n'est pas très loin de ce taux-là. Déjà, 0,5%. Et essaye de comprendre qu'aujourd'hui, il y a des États comme l'Allemagne qui empruntent à taux négatif, c'est-à-dire que ce sont les gens qui achètent la dette qui payent l'Allemagne pour acheter leur dette. On tourne un petit peu en rond. Ça ne va pas vraiment. Bon, la dette française, elle est plutôt aujourd'hui positive, mais elle a été négative. Elle a été négative récemment et elle le redeviendra sûrement. Donc, toute cette dette, en fait, donc les obligations qui vont être émises, il faut qu'elles soient achetées par quelqu'un. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'a dit la BCE, donc la Banque Centrale Européenne ? Elle a dit, j'achèterai la dette des pays. Je vais acheter massivement la dette de tous ces pays parce que il faut que j'aide l'Union Européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle littéralement imprimer de l'argent, d'accord ? La Banque Centrale Européenne va imprimer des billets virtuels qui vont se retrouver dans l'économie, puisque on va émettre de la nouvelle monnaie que les États après vont se charger de distribuer à tout le monde lorsqu'elles ont vendu leurs obligations. Donc on le voit bien, les États, ça fait déjà un petit moment, mais les États sont emprunte à des taux négatifs, voire proches de zéro, pour la plupart d'entre eux, en tout cas tous les pays les plus solvables, on parle de la France, on parle de l'Allemagne, on parle peut-être de la Hollande, on parle même de l'Espagne qui est pas très loin, l'Italie c'est un peu plus compliqué, ils sont au-dessus de 1%, mais grosso modo on parle de pays qui empruntent à des taux qui sont très 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 proches de zéro, donc ça veut dire que ça ne rapporte pas grand chose, ok ? Donc toute cette dette, un jour, à un moment donné, elle va se retrouver en fait dans des assurances-vie, parce que la BCE, finalement, après elle-même, revend cette dette, grosso modo, sur les marchés financiers, donc aux banques qui vont se charger après de les revendre, de les replacer, effectivement, dans des assurances-vie notamment. Alors ça peut être dans d'autres produits financiers, mais c'est un des produits financiers où se retrouve le plus souvent la dette, en tout cas du point de vue d'un particulier, d'accord ? Et qu'est-ce qui peut, en fait, pourquoi je voulais te parler de tout ça, c'est parce que, effectivement, les taux sont très très bas. L'avenir, finalement, il risque d'être très assombri. Pourquoi ? Parce que, comme les taux sont très bas déjà depuis plusieurs années, et que là, on vient d'émettre de la nouvelle dette qui est pas chère, hein, qui est ridiculement bas, ça va venir alimenter les assurances-vie, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc, toute cette nouvelle dette va se retrouver dans les assurances-vie dans les prochains mois, les prochaines années. Et au final, ça va continuer de diminuer les rendements des assurances-vie. Il y a un moment donné où, pour que ton assurance-vie, elle te verse 1,5% de rendement, il faut qu'elle ait, finalement, de la dette qui coûte plus cher. Tu vois ce que je veux dire ? Qui lui rapporte au moins 2%, j'en sais même plus. Alors pourquoi aujourd'hui elle est capable encore de te verser 1,5 ou 1% de rendement ? C'est simplement parce que l'assureur achète de la dette tous les jours. D'accord ? Il en a acheté il y a 10 ans, comme il en a acheté aujourd'hui, effectivement il va aussi en acheter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, s'il arrive aujourd'hui à te verser encore 1%, c'est simplement parce qu'il a acheté aussi de la dette il y a 5, 6 ou 7 ans, qui n'est pas encore arrivée à échéance, d'ailleurs. Parce qu'on a souvent des échéances de l'ordre de 5, 10, 15 années, d'accord ? Donc, il y a de la dette qui va arriver à échéance au fur et à mesure des années, qu'il faudra remplacer, puisque toi, tu détiens ton assurance-vie sur peut-être 30 ou 40 ans, et toi, tu veux que tu continues à vouloir le rendement qui est proposé par ton assurance-vie, on est d'accord. Donc, il y a un moment donné où la dette qui a été achetée, par exemple, il y a une dizaine d'années, qui était, je sais pas, à 4 ou 5%, c'était le cas. Hein. Si tu regardes bien le taux que pouvait avoir, le taux auquel les États s'endettaient était bien supérieur à 2 ou 3% à l'époque. Donc si on regarde, si on revient en arrière et qu'on regarde ces taux-là, ils étaient bien, bien supérieurs. Ce qui fait que aujourd'hui encore, ton assureur peut encore te proposer 1%, mais est-ce qu'il sera toujours en mesure de te proposer 1% lorsque toutes ces dettes vont arriver à échéance, ça sera remboursé par les États, et qu'elle aura entre-temps acheté de la nouvelle dette, hein, puisque comme je te dis, elle en achète tout le temps, pour pouvoir continuer d'assurer les rendements qu'elle te propose. Est-ce que tu penses vraiment que on peut continuer finalement à avoir des rendements de l'ordre de 1 à 1,5% avec des États qui empruntent à 0,5 voire 0 voire inférieur? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible selon toi? Ça paraît quand même évidemment compliqué, on est d'accord. Je pense que je suis pas non plus complètement dans le je suis pas complètement dans le flou si je te dis que voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent ça me paraît bizarre tout ça, quoi. Je vois pas comment l'État peut s'en sortir, les assureurs peuvent s'en sortir si les États continuent à emprunter à des taux aussi négatifs. C'est pour ça que moi, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les assurances-vie, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Le fonds en euros, ça peut être également intéressant dans une moindre mesure, parce que il faut quand même, je pense, avoir un socle d'assurance-vie, c'est intéressant, parce qu'il y a une fiscalité derrière qui est intéressante, et c'est pour ça aussi que les gens s'intéressent à l'assurance-vie. Mais baser entièrement sa stratégie sur l'assurance-vie, comme font beaucoup de Français, c'est ni fait ni à faire. Et ça va aller de mal en pis, si je puis dire. Ça va être de pire en pire, clairement. Ça ne peut pas s'améliorer dans les prochaines années. Il n'y a aucun signe avant-coureur que ça s'améliore. Et si aujourd'hui je t'en parle, c'est parce que il y a toute cette nouvelle, ces milliards qui vont être empruntés, qui vont déferler dans les assurances-vie dans les prochains mois, les prochaines années, et qui vont faire baisser littéralement les rendements des futures assurances-vie. Voilà, donc on en est là grosso modo. Et aujourd'hui, de toute manière, si tu n'as pas d'assurance-vie, que tu vas avoir une banque banque assureur qui te propose une assurance vie, eh bien, tu verras qu'il fera tout pour te dissuader d'avoir de l'assurance vie en fonds en euros, parce que lui, ça ne l'intéresse pas du tout de vendre ce produit-là, parce que il est en difficulté, parce qu'on lui, on lui demande de se protéger donc par rapport à des problématiques, et je vais en parler juste après, c'est important de parler de ça. Il se protège justement pour pouvoir continuer à avoir des rendements élevés, et si il accepte de nouvelles personnes, plus il accepte de nouvelles personnes dans son assurance vie en fonds en euros, plus il doit aller chercher de la dette. Et plus il doit aller chercher de la dette, plus il doit aller chercher de la dette nouvelle, donc de la dette nouvelle qui ne coûte rien. Et donc plus, finalement, il affaiblit le rendement général de son assurance vie. Donc grosso modo, tu vas voir une banque, jamais elle te dira « oui monsieur, je vais… » Non, ils vont te dire « voilà, l'unité de compte, c'est ce qu'il faut ». Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui le montrent. J'ai lu un article, je crois que c'était dans Les Échos cette semaine, qui disait, qui expliquait qu'effectivement, il y avait eu un, au mois de janvier, au mois de février, il y a eu un effet assez massif d'achat sur des unités de compte. Alors malheureusement, les gens sont arrivés bien trop tard, ce qui est souvent le cas, hein, parce que ça fait déjà un petit moment que voilà, le gouvernement, que l'État, que tout le monde dit qu'il faut arrêter avec l'assurance vie en fonds en euros, qu'il faut aller sur les marchés financiers acheter d'unités de compte. Donc du coup, c'est un peu rentré dans la tête des Français qui ont commencé à vouloir s'intéresser à ça, mais au dernier moment, c'est-à-dire au moment où finalement les actions sont au plus haut et au moment où ils ont commencé à se casser la gueule aujourd'hui. Alors, on pouvait évidemment pas prévoir le coronavirus, on pouvait pas prévoir les impacts que ça allait avoir, je suis d'accord, mais il y a eu donc une recrudescence de gens qui sont allés vers les unités de compte au mois de janvier, au mois de février, donc juste avant le mois de mars. Donc, ça veut dire que le travail finalement médiatique autour des assurances vie a fonctionné, les gens commencent à comprendre, et puis il y a aussi le travail des commerciaux, des assureurs et des banques qui ont poussé et pousse depuis déjà assez longtemps les clients à aller sur les unités de compte en leur montrant les rendements passés, parce que c'est toujours ce qu'on te dit, regarde les rendements passés, regarde les performances passées. Alors les performances passées, elles sont très 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 bonnes, hein. On te dit regarde, bah oui, on va te montrer 15-20% d'augmentation, bah oui, tu dis amen, évidemment. Le problème, c'est que c'est on peut pas avoir forcément des rendements de ce type-là sur du long terme, d'accord. Et puis moi, je suis pas du tout pour la gestion, on va dire, active. Donc la gestion active, c'est-à-dire d'aller confier ton argent à quelqu'un qui va aller lui-même le placer dans des actions, alors que je peux le faire moi-même et décider en mon propre chef dans quoi je veux investir. Donc ça, c'est un autre débat, je ne vais pas y rentrer dedans. Alors, là où je voulais en venir également avec les assurances vie, c'est effectivement bah, le fait que de voir que le rendement va continuer à baisser, bah, il peut y avoir des mouvements un peu compréhensibles, même si ça peut s'apprêter à de la panique, parce que bah, il y a certains assureurs qui vont se retrouver un peu peut-être en difficulté, et vont continuer de faire baisser les taux et les rendements. On va peut-être avoir des annonces dans les prochaines semaines, prochains mois, disant que bah ils savent pas vraiment comment ils vont faire pour délivrer encore des rendements adéquats. Donc ça peut avoir un impact, c'est-à-dire que les gens vont se dire, et c'est pas forcément les gens les mieux informés, sont pas forcément les gens comme la masse de gens qui investissent, qui s'intéressent pas plus que ça à l'investissement, hein. C'est plutôt les gens qui sont un peu au fait de tout ça, qui s'intéressent à ça au quotidien et qui vont aller voir le moindre le moindre frémissement auprès des assureurs pour savoir comment le fonds en euros se comporte, comment effectivement la santé de l'assureur de ce point de vue-là se comporte. Et c'est ces gens-là qui vont commencer à se dire, bon, il est peut-être temps de faire un premier achat de mon assurance vie, soit de clôturer mon assurance vie, parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir 1% de rendement, ça ne va pas, ça, c'est pas rentable. C'est aussi du fait que, comme je te dis, il y a beaucoup de. On a fait comprendre aux Français qu'il fallait investir en bourse, notamment avec la FDJ, tout ça, tu vois, les introductions en bourse des entreprises d'État, FDJ, ADP, et d'ailleurs ADP a été repoussé, ainsi tu me poses la question, donc le L'entrée à bourse d'ADP a été repoussée pour le moment. Évidemment, c'est pas du tout la conjoncture adéquate pour le faire. Donc, hormis ça, effectivement, bah, y a plein de gens qui vont se dire, bon, bah, ok, là, ça commence à être sacrément peu intéressant. Je vais peut-être retirer l'argent que j'ai en fonds en euros et le mettre dans des unités de compte, d'accord ? Parce que les gens qui comprennent un petit peu l'investissement se disent, bon, bah, c'est peut-être une opportunité, justement, de déplacer de l'argent qui ne rapporte rien vers des choses qui peuvent potentiellement rapporter plus. Nous, on parlait des actions à dividendes encore cette semaine. Je te disais, regarde les opportunités qu'il y a, regarde certaines entreprises qui sont super bien installées sur leur secteur d'activité, qui ont voilà, qui ont toujours prouvé qu'ils versaient un dividende constant et en progression chaque année. Donc, pourquoi ne pas aller vers ce genre d'entreprise? Pourquoi ne pas aller sur ces monstres qui, pour certains, versent des dividendes depuis plus de 60 ans? Donc c'est quand même du sacrément solide, hein, et c'est peut-être pas une énième crise qui va ébranler encore ce paradigme. Et ces gens-là donc vont déplacer de l'argent. Qui dit déplacer de l'argent dit bah, dégradation pour l'assureur de sa rentabilité, parce que lui derrière il a des actifs, il a acheté de la dette, et il faut que bah, cette dette elle soit, il faut qu'il la voilà, qu'il la redispose à d'autres clients. Donc s'il n'a pas assez de nouveaux clients pour en donner, s'il y a un effet massif de gens qui vont de l'assurance vie en fonds en euros vers les unités de compte, l'assureur peut se retrouver en problème, enfin il peut se retrouver un peu bloqué vis-à-vis de ça. C'est des choses qui peuvent arriver, il faut bien prendre en compte. Il n'y a pas que des avantages à l'assurance vie. Et si là, comme on ne sait pas combien de temps la crise peut durer, ça peut vraiment avoir un impact assez important. Les gens se disent, bon voilà, je veux de la liquidité, je veux avoir de l'argent pour utiliser cet argent et le mettre là où je vais aller faire des meilleurs rendements. Voilà, donc ça c'est le niveau 1 si tu veux, d'accord ? Donc si l'assureur il a trop de décollecte et qu'on va aller sur les unités de compte, ou voire même la personne retire son argent littéralement pour aller l'investir ailleurs, donc hors de l'assurance vie, c'est pas impossible que l'assurance fasse défaut. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le cas où il se pourrait potentiellement se retrouver dans cette situation-là, l'assureur peut dire, il peut y avoir deux solutions. L'assurance fait faillite, d'accord? Bon, c'est des choses qui sont peut-être peu probables, même s'il faut quand même se rappeler que ça a déjà existé et que, à précédente crise, bon, il n'y a pas eu de défaut d'assurance, d'assureur, mais il y a eu quand même des cas qui étaient quand même brûlants. Dont l'État s'est occupé, d'accord ? Donc, on n'est pas non plus à l'abri que ça n'arrive pas une autre fois, d'accord ? Il faut tout envisager. Il ne faut pas se dire que c'est tout beau, c'est tout rose, qu'on nous, sait, on nous garantit notre argent à 100%. Si on apprend que l'assureur fait défaut, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une sorte de panique, parce que là, les gens, les médias vont évidemment s'intéresser à ça. Ils vont dire, oh là là, attention, dans les assurances-vie, il n'y a plus de rendement, et en plus, il y a un mouvement de décollecte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à transvaser leur argent d'un assurance-vie à l'unité de compte, enfin d'un assurance-vie en fonds en euros vers une unité de compte, voire même de l'assurance-vie vers autre chose, vers carrément rien, vers les comptes en banque, parce qu'ils commencent à ne plus avoir confiance en l'assurance-vie. Et là, bah, les médias vont, comme ça a pu être le cas avec le Bitcoin, ils vont emballer les choses de manière parfaite, avec un petit nœud au-dessus, tu vois, et ils vont clairement faire paniquer tout le monde. Ce qui fait que les gens qui, eux, s'intéressent pas du tout à ça, hein, qui placent leur argent dans une assurance-vie parce que tonton Daniel, il a dit que l'assurance-vie, c'était vachement bien fiscalement et que ça pouvait être très utile pour la retraite, eh bien, les gens vont se dire, ils vont appeler leur banque, ils vont leur dire, attendez, moi, je suis plus très loin de la fin, là, sur mon assurance-vie, je vais peut-être retirer de l'argent, je vais commencer à en retirer. Le problème, c'est que s'il y a trop de gens qui font ça, bah, c'est en fait le cercle ultime qui peut provoquer la faillite d'un assureur, c'est que s'il y a trop de décollecte, et ben toute la dette qu'il a achetée, qu'il doit en refourguer à quelqu'un, bah, s'il n'a pas de nouveaux clients, il ne peut pas la refourguer. Et là, la pyramide s'écroule. D'accord ? Je pense que tu peux comprendre un petit peu facilement là où je veux en venir. Alors, tu vas me dire, oui, mais écoute Rémi, les assurances vie, elles sont garanties. Et en plus de ça, il y a un fonds de garantie. Ça, je l'ai entendu à la télé, on nous a toujours dit qu'il y avait un fonds de garantie sur les assurances vie. Alors oui, un fonds de garantie, dans les textes, hein, il y a bien marqué que donc les assurances vie sont garanties à hauteur de 70 000 euros. Alors on parle bien de 70 000 euros, hein, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'argent que ça. Alors quid de tout ce qu'il y a au-dessus de 70 000 euros? Alors toi, tu pourrais me dire, oui, je suis assez malin, j'ai ouvert plusieurs assurances vie, et j'ai 70 000 euros sur une assurance vie, 70 000 euros sur une deuxième assurance vie, 70 000 euros sur une troisième assurance vie, comme ça, j'ai tout mon patrimoine sur plusieurs assurances vie. Alors, oui, pourquoi pas, d'ailleurs, c'est pas non plus inenvisageable, c'est, voilà, même si, il y a des fois, il faut se méfier parce que tu t'es dit, je vais aller ouvrir une autre assurance vie dans un autre établissement, mais souvent, cet établissement, ils sont liés parce qu'ils ont des accords ensemble, ou même ils ont fusionné, tu sais même pas, t'es même pas au courant, parce que il y a beaucoup d'assureurs qui sont détenus par des grands groupes de banques, d'accord, ou d'assureurs mondiales, comme Allianz, tu vois, et on ne le sait pas forcément, parce que c'est des choses qui sont pas explicitement dites, d'accord, et ce qui fait que, bah, au final, t'as beau avoir été chez un autre assureur au sens du nom, c'est peut-être le même groupe, d'accord? Donc au final, est-ce que derrière, bah, si l'assureur fait faillite, est-ce qu'il pourra te rembourser? Je ne suis pas convaincu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc c'est 70 000 euros, hein, effectivement, le fonds de garantie. Il y a des possibilités jusqu'à 90 000 euros. Il y a des exceptions. Bon, je ne peux pas t'en parler aujourd'hui, c'est pas le but. Mais grosso modo, d'ailleurs, tu peux regarder, hein, les textes. Hein, tous ces textes sont officiels. Tu regardes sur c'est Légifrance, je crois, le site où on a tous les textes de loi liés aux assurances vie. Tu tapes Légifrance assurance vie fonds de garantie, tu vas trouver tout de suite, hein, sur Google. Alors comment finalement, parce que ce fonds de garantie, c'est intéressant, hein, donc 70 000 euros, on se dit, bon, voilà, on a quand même un matelas de sécurité, quoi, donc voilà, et puis c'est vrai que 70 000 euros, ça commence à être, c'est déjà une très belle somme, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins de 70 000 euros sur leur assurance vie, ils se disent, bon, ok, pas de problème. Le truc, c'est que comment finalement ce fonds de garantie, il est constitué? Parce que ça, c'est intéressant de le savoir, c'est comment fonctionne le fonds de garantie. En fait, le fonds de garantie, eh bien, on oblige en fait les assureurs à provisionner 0,05% des sommes collectées. 0,05% des sommes collectées. Je ne sais pas si tu te rends compte du faible montant. C'est-à-dire que finalement, il n'y a que 0,05% des sommes que les assureurs détiennent, qui sont mises en fait dans ce fonds. Enfin, c'est même pas de l'argent, c'est pas cet argent qui est mis, c'est de l'argent de l'assureur, hein, donc des bénéfices de l'assureur qui doit être mis dans ce fonds de garantie. D'accord? Mais il n'y a que 0,05% des sommes. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de te dire littéralement, mathématiquement, même j'ai envie de te dire, que en fait, on n'a pas l'argent pour tout le monde. C'est clairement ça. 0,05. Alors, si tu prends par exemple, je sais pas, on va prendre 1800, tu sais quoi, je vais le faire en même temps. Attends, c'est combien ça? Ça, c'est. Oui. Tu sais quoi, elle va même pas jusqu'à 1800. Ouais, bah, je vais faire 1800, je suis bête. 1800 fois 0,05. Ben, tu sais quoi, ça fait, ben, 0,9, oui, ça fait 900 millions. 900 millions. Ça veut dire qu'en gros, grosso modo, le fonds de garantie de tous les assureurs représente seulement 900 millions sur les 1800 milliards qui est placé. Alors, c'est 1800 ou un peu plus, je ne sais plus. Milliards qui est placé sur les assurances vie, c'est ridiculement bas. Donc déjà, ça te laisse une idée un peu du fonds de garantie. Est-ce que vraiment est-ce que vraiment il garantit vraiment tout le monde? Ensuite, il y a un petit peu des fusibles sur les assurances vie. Alors je t'avais dit que c'était long, hein, tu vois, on est déjà à une quarantaine de minutes, mais j'ai presque fini. les fusibles qu'il y a auprès de l'assurance-vie. Alors, effectivement, le fonds garanti, comme je te disais, mais comme tu peux voir, le fonds de garantie, c'est pas très, enfin, il est pas très utile selon moi. L'autre fusible, c'est tout simplement que l'État peut bloquer les retraits. En fait, si le gouvernement s'aperçoit qu'il y a justement un mouvement massif de retraits sur les assurances-vie, eh bien, il y a une loi qui a été qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle la loi Sapin 2, qui est une loi qui introduit, en fait, alors je ne sais pas si c'est cette loi vraiment qui l'a introduit, mais grosso modo, dans cette loi-là, il y a bien indiqué que l'État peut bloquer les retraits des assurances-vie pour limiter, en fait, une sorte de panique qui pourrait y avoir sur les retraits des assurances-vie. C'est-à-dire que si, par exemple, un assureur se retrouve en difficulté, évidemment, le gouvernement discute avec les assureurs, ou c'est le contraire plutôt, les assureurs vont dire « Ah, attention, je pense que ça va être compliqué les prochains mois, je sais pas si je vais pouvoir garantir tous les retraits parce que j'ai pas assez de nouvelles personnes qui rentrent et donc du coup, voilà, je me retrouve en difficulté pour assumer tous les retraits. » Ce que va faire l'État, c'est qu'il va analyser la situation, donc Bercy va analyser la situation et peut demander effectivement de bloquer les retraits sur les assurances-vie de cette compagnie-là, voire même de toutes les compagnies pour pas avoir un effet domino sur les autres compagnies. Donc oui, potentiellement, l'État peut dire stop, peut dire aujourd'hui, non, c'est plus possible de retirer votre argent des assurances-vie. Comme on a pu avoir des choses sur la bourse où notamment on va bloquer en fait les achats et les ventes pendant un certain nombre de temps. On va fermer la cotation d'une action pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire peut-être quelques heures des fois, pour pouvoir justement calmer tout le monde et dire attendez, on va regarder, estimons la situation, regardons qu'est-ce qui se passe. Parce que cet effet de panique, il est souvent contre-productif. Donc oui, l'État peut effectivement bloquer votre argent en cas effectivement de panique générale et en cas de potentiel défaut d'un assureur. Donc tout ça, il faut le savoir. Hein. Finalement, quand on dit sécuriser, bon. Donc si tu te retrouves dans l'impossibilité de retirer ton argent de l'assurance-vie parce que tu en as besoin ne serait-ce que pour vivre, parce que le seul patrimoine que tu as, t'es bien dans la merde, je te le dis. Alors maintenant la question, on va terminer par ça, c'est finalement ok, tu nous dis Rémi que l'assurance-vie, ok, il peut y avoir des sacrés problèmes dans les prochains mois, prochaines années. Alors déjà, je suis pas forcément en train de dire ça, je suis en train de t'exposer les faits, je suis en train de t'exposer ce qui est possible, ce qui peut arriver. Je suis pas en train de te dire que ça va arriver, mais en tout cas, il y a des choses qui sont manifestement inquiétantes, d'accord ? On n'est pas à l'abri qu'un État sauve les assureurs, qu'ils remettent de l'argent, et que bon, tout ça, c'est des choses qui sont probables. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même tout envisager, il faut comprendre ce qu'on fait, voilà. Donc, est-ce que ça serait pas intéressant, oui, de retirer son argent tout de suite ? J'ai envie de te dire, oui, c'est pas une mauvaise idée, en fait. C'est pas une mauvaise idée parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas forcément de panique sur les assurances-vie. L'assurance-vie, ça rapporte pas grand-chose. Il y a des opportunités sur le marché boursier, sur les actions. Il y a des opportunités, peut-être, dans le marché de l'immobilier dans les prochains mois, parce que, il va y avoir un problème. Peut-être, on le sait pas, hein, c'est des choses qui sont... parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, le marché de l'immobilier va s'écrouler ». J'en ai strictement aucune idée, mais c'est des choses qui sont possibles, d'accord ? Et je veux avoir des liquidités, je veux avoir de l'argent pour pouvoir investir, d'accord ? De répartir mon argent de manière différente, parce que je me dis « l'assurance-vie, c'est plus pour moi ». Je n'ai pas envie d'en posséder autant. Voilà, je peux très bien me dire bon, j'en ai trop en fait. Je vais reprendre une partie de mon argent et le mettre ailleurs. D'accord ? Donc je te dirais oui, c'est pas une si mauvaise idée en fait. D'accord ? Alors, je tiens juste pour que tu te rendes compte, c'est que déjà clôturer une assurance vie ou faire un rachat partiel. Donc quand on dit rachat partiel, c'est finalement retirer une partie de l'argent que tu possèdes dans l'assurance vie, eh bien ça peut ça prend surtout dans les assureurs un peu traditionnels qui sont pas en ligne et qui ont pas trop où ça se passe souvent à l'agence ou voilà, en temps normal ça prend déjà entre 3 semaines et 1 mois. Donc déjà voilà. on sera vraiment rentré pleinement dans la crise, et tu vois ce que je veux dire, plus ou moins. En plus de ça, il y a beaucoup d'attentes en ce moment, enfin il risque d'y avoir plus d'attentes qu'en temps normal, puisque on a beaucoup de gens qui sont en télétravail, qui sont au chômage partiel dans ces entreprises là, donc c'est beaucoup plus difficile. Et moi j'ai pu constater par moi-même, que parce que j'ai essayé de contacter donc mon courtier Amsterdam. Et donc De Giro, hein, pour pas le nommer, et ils ont mis énormément de temps à me répondre. Et d'ailleurs, j'ai dû les relancer plusieurs fois avant qu'ils me répondent. Donc ça prouve bien, et ils m'ont bien dit que c'était effectivement à cause du coronavirus. Ils ont énormément de demandes de gens qui veulent ouvrir des comptes. Ils ont voilà, ils sont submergés un peu par les demandes. Et en plus de ça, bah effectivement, comme tout le monde, ils ont le confinement, donc ça pose encore plus de problèmes. Donc il faut bien se prendre compte que là, si aujourd'hui tu veux racheter une assurance vie ou clôturer une assurance vie, ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu, d'accord. Je te conseille pas forcément de le faire, mais je te dis, ok, si tu veux retirer de l'argent, c'est pas une mauvaise idée. Ça sera sûrement une meilleure idée que dans 2 ou 3 mois, où peut-être potentiellement on peut se retrouver un peu plus dans une difficulté, parce que les gens vont comprendre que voilà, les assurances vie ça rapporte plus rien, que potentiellement un assureur peut faire faillite. C'est déjà arrivé, comme je l'ai dit, ça peut réarriver. De toute manière, il faut envisager même les pires possibilités, même si les probabilités sont relativement faibles. Et puis de toute manière, voilà, ça rapporte rien. Donc pourquoi garder son argent dans son assurance-vie aujourd'hui? Ça n'a pas vraiment énormément d'intérêt, en tout cas si tu as déjà un patrimoine assez massif dans l'assurance-vie. Donc voilà grosso modo ce que je voulais dire sur l'assurance-vie. C'était assez long, je pensais pas faire aussi long, mais j'ai pas mal de choses à te dire. Voilà, alors du coup le deuxième sujet, je pense qu'on en terminera sur ce sujet-là. On abordera finalement le troisième sujet la semaine prochaine, hein, donc dimanche prochain on se retrouvera de toute manière. Donc on va terminer avec le sujet du versement du dividende. Donc je voulais t'en parler parce que j'ai déjà abordé ça dans les emails privés. Donc encore une fois, hein, pour tous ceux qui m'écoutent en podcast et qui n'ont pas les emails privés, parce qu'ils m'ont découvert par le biais du podcast, tout simplement, pour recevoir les emails privés, c'est très 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 simple. Tu as le lien en description, c'est le premier lien. Tu t'inscris, tu vas recevoir l'email dès demain, puisque le prochain email c'est demain dans la journée. Et en fait, je t'accompagne pendant, ce confinement, cette crise économique un petit peu, où j'aborde un petit peu tous les sujets liés à l'investissement, l'investissement particulier d'une personne, lambda qui place son argent. Je te partage un petit peu mes expériences. Je t'explique un petit peu ce que moi j'ai compris. Je te mets en garde sur différentes choses. Là, on a parlé d'assurance-vie. Voilà ce que j'ai compris sur l'assurance-vie. Je sais peut-être pas tout sur l'assurance-vie, mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles je me suis beaucoup documenté pour pouvoir te parler de tout ça aujourd'hui. Donc du coup, je parle de tout ça dans ces emails et j'essaie de t'apporter de la valeur, du concret, des choses que tu peux appliquer dans ton quotidien d'investisseur particulier. Donc le lien est en description si tu veux recevoir. Alors, donc je vais continuer ce podcast en te parlant de la crise du versement du dividende. Donc on en parlait dans les emails privés cette semaine, parce que il commençait à avoir un petit peu la vague effectivement d'entreprises qui ont annoncé l'arrêt du versement de leur dividende de 2019 sur l'année 2020. Notamment des gens comme Airbus qui ont annoncé ça, donc carrément l'arrêt total du dividende. Il y a des entreprises comme Unibail, Rodamco, Westfield, dans lesquelles j'ai des actions, ont annoncé donc de réduire de moitié leur dividende, parce qu'ils ont un dividende qui a été versé cette semaine, et le deuxième dividende qui devait être versé, je crois c'est au mois de juin ou juillet, ne sera pas versé finalement, compte tenu de la difficulté que rencontre l'entreprise aujourd'hui. Alors rien n'est grave pour le moment, hein. C'est simplement que l'entreprise se dit qu'effectivement c'est peut-être pas forcément le bon moment de verser de l'argent, aux actionnaires alors qu'on a besoin de cet argent pour potentiellement passer cette crise et potentiellement on reverra le versement du dividende plus tard. Peut-être qu'on le versera finalement en fin d'année, peut-être qu'on le versera pas, mais en tout cas voilà. À partir du moment où de toute façon je me dis, moi je me mets dans la tête, à partir du moment où je me dis que l'entreprise, ça peut lui servir pour faire face à cette difficulté temporaire. Surtout qu'on rentre vraiment dans quelque chose de qui n'est jamais vu, c'est-à-dire des entreprises qui sont à l'arrêt total. Voilà. Si je reprends l'exemple de Unibail Rodamco, Westfield, eh bien, c'est donc une foncière qui détient des centres commerciaux à travers le monde. On lui dit du jour au lendemain, tu dois fermer tes portes. Donc plus personne ne vient dans tes centres commerciaux. La foncière, comment elle gagne son argent ? Elle reçoit des loyers, des gens qui qui louent donc des espaces dans ces centres commerciaux. C'est des grands noms souvent. C'est des gens comme Nike, c'est des gens comme Adidas, c'est des gens comme Paul, c'est des gens, enfin, tu vois, H&M, c'est des grands noms internationaux. Du commerce, mais quand même, voilà, il peut se trouver que certaines se disent, bon, je vais pas pouvoir verser le loyer ce mois-ci, même si la société reste vraiment tout à fait dans l'idée que pour le moment il n'y a aucun problème, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails sur Unibail Rodamco, la question, c'est plutôt de se dire, bon, bah, en fait, ça a un petit peu avancé et c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est parce qu'on n'était pas encore vraiment certain de l'impact que ça allait avoir. Alors déjà, le gouvernement a bien fait comprendre que toutes les entreprises qu'elle allait aider, je pense qu'il serait de bon ton de pas verser de dividendes cette année, parce que voilà, il n'est pas question que l'argent public serve à verser des dividendes aux actionnaires alors que l'entreprise est en grande difficulté. Donc c'est pas le moment. C'est des choses qui peuvent se comprendre. On peut très bien le comprendre. Et ensuite, Bruno Le Maire a même dit effectivement aux entreprises dont l'État est actionnaire, donc des grandes entreprises comme Renault par exemple, Engie, EDF, Orange, enfin ce genre d'entreprises, pareil, qu'il serait intéressant que cette année l'entreprise fasse attention aux dividendes. Est-ce que c'est pertinent de verser un dividende en temps de crise? L'État met la pression déjà, médiatique aussi, puisque il va y avoir aussi une pression médiatique, ça j'en ai parlé dans l'email, mais de plus en plus, si on entend des entreprises verser des énormes dividendes à leurs actionnaires, alors qu'elles sont en difficulté, alors qu'elles ont demandé des sacrifices à leurs salariés, eh bien il y aura, je pense, au niveau de l'opinion publique, des choses qui vont mal passer. Donc ça peut avoir un impact sur l'image de l'entreprise, donc il ne faut pas le nier non plus. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Et puis, vraisemblablement, le gouvernement voudrait carrément, alors c'est vraiment quelque chose que je déteste en France, c'est de toujours vouloir ajouter des lois aux lois, et voudrait donc encadrer carrément le versement des dividendes. Interdire les entreprises de verser un dividende. Alors ça serait surtout les entreprises dans lesquelles elle a aidé, dans lesquelles l'État a aidé l'entreprise, donc ça serait potentiellement interdit. J'y vois pas d'inconvénient parce que voilà, même si pour moi la loi, c'est emmerdant que ça soit une loi et qu'on fasse pas plutôt confiance aux entreprises, parce que il y a des gens dans ces entreprises-là, il y a des dirigeants, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui font pas non plus que n'importe quoi, faut pas déconner non plus, et ils sont là aussi pour sauver leur entreprise, leur but c'est de gérer une entreprise, et je comprenne pas qu'on n'essaie pas non plus de faire confiance à ces gens-là, d'autant plus que si on pense que c'est pas une bonne chose, eh bien on pourra le dire en public et dire voilà, l'entreprise Intel a versé un sacré dividende alors que elle a mis au chômage partiel des milliers de personnes. C'est des choses qui peuvent se je pense que souvent la sanction médiatique est plus intéressante que la sanction financière pour une entreprise. Donc je trouve que la loi n'a pas de voilà, n'est pas très intéressante de ce point de vue-là. Je regarde un petit peu ce que j'avais noté par rapport à tout ça. Donc aux US, hein, ça commence aussi. Hein, il y a pas mal d'entreprises qui ont déjà annoncé. Donc je parlais de Boeing, hein, qui a renoncé aux dividendes cette année, et d'autres entreprises vont y venir probablement, parce que voilà, on est face à une crise qui n'est jamais vue, puisqu'on est face à une crise où on demande aux entreprises d'arrêter de produire, d'arrêter de travailler. Donc il y aura forcément des impacts sur, sur le résultat de 2020 pour ces entreprises. Là. Même si le dividende souvent il est lié à l'année précédente, c'est quand même de l'argent qu'il faut sortir à un moment qui n'est pas opportun pour l'entreprise, parce qu'elle a besoin de ce cash pour pouvoir l'utiliser pour subvenir à ses besoins au quotidien. Donc est-ce que finalement c'est grave qu'une entreprise ne verse pas un dividende? Alors pour l'actionnaire, oui, c'est un peu emmerdant. C'est vrai que moi, quand j'ai entendu que Unibail n'allait pas verser son deuxième dividende, j'étais un peu énervé, mais en même temps je me suis dit, oh là, j'ai quand même eu la possibilité de racheter des actions Unibail à un prix défiant toute concurrence, avec même un dividende réduit de moitié, avec un rendement qui est au-dessus de 10% brut. Je vais pas non plus commencer à cracher dans la soupe, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi c'est pas si grave, surtout si l'entreprise garde en trésorerie le dividende, parce que l'entreprise peut très bien garder cet argent en trésorerie pour montrer aux banques aussi qu'elle a de l'argent, qu'elle est en capacité de se refinancer à partir du moment où, voilà, si elle le garde en trésorerie et que de toute façon ça contribuera à la génération du cash flow, donc de tout l'argent qu'elle aura pour les prochaines années pour verser un dividende confortable les prochaines années. Donc, j'avais noté, donc faut pas montrer que certains souffrent, tu vois, pendant que d'autres se gavent. Donc c'est un peu le mot finalement, c'est de dire il y a des TPE-PME qui sont en train de souffrir à cause de cette crise, et de l'autre côté, tu as des entreprises du CAC 40 qui, elles, gavent leurs actionnaires de dividendes. C'est clairement pas, je pense, une bonne période. Même si en tant qu'actionnaire, je me dis, merde, ce sont mes revenus quand même. Des revenus qui vont finalement, si aujourd'hui je dois vivre de ces revenus, ben je suis en manque de revenus. Malgré tout, faut pas oublier ça, les gens l'oublient souvent, c'est que quand le dividende est versé, le cours de l'action baisse. D'une certaine manière, ça fait également perdre de l'argent à l'actionnaire. Parce que intrinsèquement, faut bien comprendre que si on verse un dividende de 5 euros, l'action va baisser de 5 euros au moment où le dividende est versé. Ce qui fait que mathématiquement, finalement, la personne perd quand même. Enfin, c'est une opération neutre pour l'actionnaire. Voilà. La valeur de son action a quand même baissé du montant du dividende. Donc c'est pas non plus une opération totalement positive. D'accord ? La seule chose qu'on peut dire du dividende, c'est qu'au final, le dividende, c'est une rémunération immédiate. Donc c'est comme si, sans vendre l'action, sans être obligé de vendre son action, on accapare une partie de la valeur de l'entreprise. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Donc pour moi, c'est pas non plus une mauvaise chose. Simplement, il faut se dire que on va sûrement faire face à une vague d'entreprises qui vont annoncer un versement tronqué du dividende, que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis, voire carrément ne pas en verser. On va surtout voir, et ça je ferai donc du coup sûrement un email là-dessus. Je vais suivre attentivement les entreprises qui font partie des dividendes aristocrates, hein, tu sais, ces fameuses entreprises qui ont fait croître leurs dividendes depuis au moins 25 années. Donc si ces entreprises vont résister au versement cette année, est-ce qu'elles vont continuer à faire croître le dividende? Ça, on va le savoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, je vais m'intéresser à tout ça, je t'en dirai plus évidemment sur l'évolution. Mais moi, je suis pas non plus complètement dans l'idée que c'est une mauvaise chose, en tout cas à court terme. Voilà. On va s'arrêter là, donc ça fait quasiment une heure comme tu peux le voir, je vais pas aller plus loin, et on abordera le troisième sujet un peu plus tard, donc sûrement dans le prochain podcast, je pense. Mais voilà, j'avais vraiment envie de te parler de ces deux sujets qui me semblaient importants. On se retrouve de toute façon dans les emails privés, hein. N'oublie pas, hein, si tu veux recevoir les emails privés, hein, il y a le lien en description, tu mets ton adresse email et tu recevras le prochain email qui sera donc dès demain. Je te remercie de m'avoir écouté parce que c'est assez long. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail également, ça me fera plaisir. Rémy@parlons-argent.fr. Je serai ravi de pouvoir répondre à ta question éventuellement. Voilà, je te souhaite un très bon confinement, un très bon dimanche également, et je te dis à la semaine prochaine pour tous ces emails et le podcast dimanche prochain. Allez, ciao.